Bonjour, pour cette première émission, nous allons travailler sur l'entrée en guerre des Hautes-Alpes. Nous allons commencer par faire une revue de la presse locale et lire différents documents écrits à ce moment même. Revue de la presse locale du mois de juillet 1914 par Emma, Louise et Rose. Document écrit par des habitants haut-alpins lors de l'entrée en guerre au cours de juillet et août 1914 par Emma, Louise et Rose. Nous accueillons M. Fabien Janier, professeur d'anglais au lycée Aristide Briand, qui a écrit un article au sujet de l'entrée en guerre dans un livre paru récemment pour une interview.
Quels sont les journaux des Hautes-Alpes ?
On distingue deux journaux, le Courrier des Alpes situé à Gap et la Durance à Embrun. Ce sont des journaux républicains, le centre droit politique de l'époque.
De quoi parlent les journaux des Hautes-Alpes au mois de juillet 1914 ?
Le thème principal pour les informations nationales est la venue prochaine du président de la République qui doit visiter les Alpes, de Nice à Briançon, au début du mois d'août, juste après un séjour en Russie.
Mais on ne parle pas de l'événement le plus important, je veux dire l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, l'héritier de la couronne d'Autriche, et tué à Sarajevo le 28 juin.
Si, bien sûr, mais de façon très limitée. Le 29 juin, le Courrier des Alpes consacre quelques lignes. Dimanche, à Sarajevo, en Bosnie, l'archiduc François Ferdinand, héritier d'Autriche, a été tué par un étudiant qui lui a tiré un coup de revolver. Sa femme, qui se trouvait dans la même voiture, a également été tuée.
En effet, c'est très court. Pourtant, cet attentat est à l'origine de la guerre.
Oui, c'est vrai, mais de notre point de vue. À l'époque, personne n'était capable de dire que ce double meurtre serait à l'origine de la guerre. C'est pourquoi la venue du président prenait une place beaucoup plus importante.
D'accord, je vois. Mais c'était qui le président ? Et il devait aller où ?
C'était Raymond Poincaré. Il devait traverser les Alpes pour emprunter les routes construites et favoriser les déplacements des troupes. Par exemple, dans les Hautes-Alpes, il devait franchir le col de l'Issoire qui venait d'être ouvert. Il devait aussi rencontrer les personnalités du département.
Mais qui organisait tout cela ?
C'était le préfet, en relation directe avec le cabinet de l'Élysée. Cette organisation était très précise et les journaux en donnent de nombreux détails. Courrier des Alpes, 23 juillet 1914. À 9h45, il ira à pied à l'hôpital que lui feront visiter les administrateurs de l'établissement charitable. Puis, il rentrera à la préfecture qu'il quittera à 10h45 pour se rendre au banquet offert par le Conseil Général et la ville de Gap dans la grande salle des fêtes, place du lycée. Itinéraire, cours du midi, place Eugène d'Arc, boulevard Lamartine, boulevard de la Liberté.
Est-ce que le président a effectué cette visite ?
Non, elle a été annulée. Les journaux en parlent au tout début du mois d'août. La Durance, 2 août 1914. Monsieur Raymond Poincaré prie les municipalités de suspendre provisoirement les préparatifs faits pour le recevoir. Et il ajoute « En raison de la gravité de la situation extérieure, situation qui peut se prolonger, on comprend que M. Raymond Poincaré ne puisse prendre aucun engagement ferme en ce qui concerne le voyage qu'il avait décidé de faire dans les Alpes. »
Picontal, 7 août 1914. Joseph Roman à son fils Charles, frère de Bernard. Joseph décrit à Charles la mobilisation dans le village des Crottes, qui est devenu aujourd'hui Cro. La mobilisation est admirable. Le samedi 1er août, à 5h du soir, le tocsin a sonné dans les 12 ou 15 communes qui environnent Embrun et aussi à la cathédrale. Ça a été une scène terrible. Les femmes pleuraient, les enfants hurlaient, les hommes étaient blancs comme des spectres. Je me précipite sur la place. Le père Ose, en passant, me crie « Je suis perdu, mes deux fils partent. Taisez-vous, sacré bleu, vous n'êtes pas le seul. » J'arrive en bas, une population affolée, je leur crie « Il s'agit que chacun fasse son devoir. Vive la patrie! Mais nos récoltes, qui les ramassera? Chacun s'aidera et puis on s'en fout des récoltes. L'important est de ne pas devenir prussien. »
Tous les jeunes sont partis sans une larme. Les territoriaux sont allés garder les gares et les ponts. D'autres ont été dans les forts à Mont-Dauphin ou à Tournoux sans se rebiffer. Le 3, on a réquisitionné les chevaux et les mulets. Presque tous ces derniers ont été pris, ainsi que les chevaux plus forts. Nous avons eu de la chance qu'on ne nous a pris qu'un cheval et la charrette, et encore, on nous a promis de nous les rendre dans 10 jours. Tout le monde a confiance, mais on s'énerve un peu parce que les journaux arrivent peu et que les nouvelles sont rares.
On affiche chaque jour un petit bulletin officiel. Voilà l'Allemagne et l'Autriche avec la Russie, la France, l'Angleterre et la Serbie sur les bras. Si elle s'en tire, elle aura de la chance. Mais il ne faut pas commettre la faute de 1870 et attendre la tête. Quant aux antimilitaristes, ils n'existent plus. La balle qui a tué Jaurès les a assagis. Adieu, nous t'embrassons tous. Soigne-toi bien, fais ton devoir, mais ne t'expose pas à des dangers inutiles. Adieu, que Dieu te protège.
La mobilisation dans les Hautes-Alpes. C'était la pleine moisson. Quand on a entendu les cloches sonner, on s'est tous demandé pourquoi elles sonnaient comme ça. C'est le garde champêtre qui nous a annoncé la nouvelle. Il disait à tous ceux qu'il croisait « C'est la guerre, c'est la guerre !»
Ce n'est que le lendemain, ou le surlendemain, que la guerre a commencé à montrer son vrai visage. Quand les ordres de mobilisation générale et les feuilles de route sont arrivées dans les familles. Il y en avait qui prenaient ça à la rigolade. Ça va nous faire des vacances en plein été. Mais il y avait les autres, les inquiets, qui voyaient tout en noir.
Pour cela, la guerre, en tout simplement, s'en allait en quitter les moissons. C'était la fin de tout. Finalement, ils sont tous partis. En l'espace d'une semaine, le village avait changé du tout au tout. Il n'y avait plus un homme entre 20 et 30 ans. Ils étaient tous à la guerre. Émilie, Karl. Une soupe aux herbes sauvages.
Mon cher papa et ma chère maman, je vous écris sur ce papier extraordinaire parce que je n'en ai pas d'autre pour l'instant. Nous partons maintenant à notre place sur la frontière, toute la garnison est mobilisée et part en couverture.
Aurons-nous la guerre ou non? Cela, on n'en sait rien. En tout cas, je pense que nous allons rester dans les champs au moins 8 ou 15 jours. Tout le monde est content, moi aussi. Il est temps qu'on se décide à faire quelque chose et nous attendions ce moment depuis longtemps. Le moral des hommes est excellent et ils ne demandent qu'à se trouver en face des Prussiens.
Je crois d'ailleurs que ce sont fort embêtés car nous n'avons jamais été dans une meilleure situation. Je pars dans de bonnes conditions, bien préparé et en bonne santé, donc rien de mieux.
Je vous tiendrai au courant d'ailleurs sans vous donner de détails naturellement car c'est défendu. Je vous embrasse tous en vous recommandant de ne pas avoir de craintes exagérées et de ne pas vous faire d'idées noires. Bernard Roman, Verdun, 31 juillet 1914, 5h du matin.
Bonjour Monsieur Janier.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'anglais au lycée Aristide Briand, mais vous vous intéressez tout de même à la Grande Guerre. D'où vient votre intérêt pour cette période ?
Alors mon intérêt pour cette période vient du fait qu'au-delà de l'anglais, j'aime beaucoup l'histoire et que j'ai fait des recherches précédemment sur cette période-là, mais qui concernait l'Écosse. Donc histoire, anglais, pour moi, il y a un lien qui est peut-être pas forcément évident, mais pour moi, il l'est.
Quand avez-vous commencé à travailler sur ce sujet et à quoi cela a-t-il abouti ?
Donc, j'ai commencé à travailler sur ce sujet à l'automne 2012 en intégrant un groupe de travail à l'invitation de M. Chenard, le directeur des archives départementales, et de M. Spitalier, professeur d'histoire-géographie au Collège Centre. Donc j'ai travaillé pendant, on va dire, une bonne année sur le sujet. Bien que j'ai commencé à l'automne 2012, j'ai commencé par circonscrire mes sources. Et puis après, j'ai laissé un petit peu de temps passer. Je m'y suis remis presque 8 mois plus tard. Et là, ça m'a pris un an de lecture, relecture et écriture pour arriver au bout de mon travail. Et ce travail a débouché, en fait, sur l'écriture d'un article qui s'intitule « L'entrée des Hauts-Alpins dans la Grande Guerre » et qui est un article d'un ouvrage collectif dont le titre est « Vivre la guerre dans les Hautes-Alpes » qui a été publié aux éditions Priva et qui est sorti il y a quelques jours. Donc cet article est le premier article de l'ouvrage collectif et il vise à montrer comment les Hauts-Alpins sont entrés dans la guerre, ce que la guerre a changé dans leur quotidien, quel bouleversement cela a occasionné dans la vie de tout le monde et dans la vie du département.
Quelles sources vous ont permis d'écrire cet article ?
Alors j'ai travaillé pour mon article, j'ai travaillé quasi exclusivement avec des sources provenant des archives départementales des Hautes-Alpes. Mes sources étaient multiples, j'ai beaucoup travaillé sur les journaux locaux. Donc j'ai lu, il y a 8 ou 9 journaux différents que j'ai épluchés sur les périodes juillet, août, septembre, octobre, novembre 1914. J'ai aussi travaillé sur les notes des instituteurs, institutrices du département. J'ai travaillé sur les comptes rendus policiers, notamment d'un monsieur qui s'appelait Monsieur Verpilla, qui surveillait la frontière avec l'Italie. Et puis j'ai travaillé sur ça, ce sont donc des sources primaires. J'ai aussi travaillé sur des sources secondaires, c'est-à-dire des ouvrages d'historiens spécialistes de la période pour m'aider à contextualiser ce que je lisais des archives départementales et puis à m'assurer que je ne faisais pas d'erreurs d'interprétation.
Quand a commencé la guerre ?
La guerre a commencé le 3 août 1914, quand l'Allemagne a déclaré la guerre à la France, le décret de mobilisation des armées avait été signé le 1er août par le président de la République, M. Poincaré.
Comment ont fait les civils pour s'adapter à une économie de guerre en pleine période de moissons et de récoltes ?
L'adaptation par les civils a été assez compliquée. En même temps, ils ont eu assez peu de temps pour s'y faire, puisque la mobilisation était quelque chose d'ordonné très rapidement. Il a fallu que les gens partent très rapidement rejoindre leur régiment. Eh bien, les familles se sont adaptées en se mettant tous au travail, les plus jeunes, les plus vieux, les femmes aussi, qui se sont mises à faire des travaux qu'elles ne faisaient pas jusqu'à présent. Et puis, il y a eu beaucoup d'entraide entre voisins, au sein des familles. Chacun a fait un petit peu ce qu'il a pu en parant au plus pressé pour faire le mieux possible et surtout effectivement faire les moissons, tout rentrer de manière à pouvoir avoir des réserves pour l'hiver.
Quand avez-vous commencé à travailler sur ce sujet et à quoi cela a-t-il abouti ?
Donc, j'ai commencé à travailler sur ce sujet à l'automne 2012 en intégrant un groupe de travail à l'invitation de M. Chenard, le directeur des archives départementales, et de M. Spitalier, professeur d'histoire-géographie au Collège Centre. Donc j'ai travaillé pendant, on va dire, une bonne année sur le sujet. Bien que j'ai commencé à l'automne 2012, j'ai commencé par circonscrire mes sources. Et puis après, j'ai laissé un petit peu de temps passer. Je m'y suis remis presque 8 mois plus tard. Et là, ça m'a pris un an de lecture, relecture et écriture pour arriver au bout de mon travail. Et ce travail a débouché en fait sur l'écriture d'un article qui s'intitule « L'entrée des Hauts Alpins dans la Grande Guerre » et qui est un article d'un ouvrage collectif dont le titre est « Vivre la guerre dans les Hautes Alpes » qui a été publié aux éditions Priva et qui est sorti il y a quelques jours. Donc cet article est le premier article de l'ouvrage collectif. Et il vise à montrer comment les Hauts Alpins sont entrés dans la guerre, ce que la guerre a changé dans leur quotidien, quel bouleversement cela a occasionné dans la vie de tout le monde et dans la vie du département.